Depuis le début de l'année, beaucoup d'automobilistes regardent défiler les chiffres avec angoisse.
Il y a encore quelques temps, c'était à 1,47 et on est à 1,60. C'est une belle augmentation.
Faire le plein coûte nettement plus cher.
Je suis à peu près à 20 euros. Quand ça avait diminué après le début du mouvement des gilets jaunes, j'étais redescendu à peu près à 16 euros et là, ça a repris 4 euros à peu près sur un plein. Sur un plein de 15 litres, bon, ça commence à faire quoi.
6 mois après le soulèvement des gilets jaunes contre l'augmentation des carburants, les prix se sont envolés, plus 12%. En moyenne nationale, depuis janvier, pour le sans-plomb 95, 7% pour le gasoil. Des prix qui s'expliquent par la remontée du cours du pétrole, plus 40% en 4 mois.
Les prix du pétrole ont atteint des sommets après l'annonce de l'administration Trump de mettre fin à un programme de dérogation permettant à certains pays d'acheter du pétrole à l'Iran. Le président Trump pourrait être confronté à un été cruel.
Les marchés scrutent les moindres soubresauts des principaux pays producteurs de pétrole. Bras de fer entre Donald Trump et l'Iran, crise économique et politique au Venezuela, guerre civile en Libye, mystérieux sabotage de pétroliers hier dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Lorsque la production mondiale de brut ralentit, les prix montent en flèche. Alors le gouvernement qui a gelé la taxe carbone en décembre dernier, devra-t-il maintenant baisser la fiscalité sur les carburants? La hausse des prix, mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des Français, est-elle une bonne nouvelle pour la planète?
C'est un internaute qui pose la question suivante, il voudrait savoir ce qu'attend la France pour proposer une alternative viable à l'essence comme l'hydrogène qui, dit-il, est déjà testé au Japon et aux États-Unis. Philippe Chalmont, on parle effectivement beaucoup de ces voitures à hydrogène, de voitures électriques, mais à quelle échéance ces nouvelles voitures vont-elles remplacer nos vieilles voitures à essence? On est sur quel calendrier?
Électrique, on est quand même en train de le vivre, même si les voitures électriques posent d'autres problèmes de dépendance du cobalt,
sur les métaux,
du lithium et autres machins de ce genre. Et puis quand même l'électricité, il faut quand même le rappeler, et cette électricité, elle vient d'autres choses, c'est du nucléaire, c'est très mal, ça peut venir d'autres énergies fossiles, ce qui ne serait peut-être pas très bien. L'hydrogène, c'est beaucoup plus loin quand même. Ouais. Donc il ne faut pas se leurrer sur l'horizon des 10 années à venir, donc un horizon moyen terme. Nous sommes malheureusement condamnés dans la fonction transport à vivre avec de l'essence, du diesel, à essayer de d'utiliser des énergies plus renouvelables ou des biocarburants, etc. Mais de toute manière, à court, moyen terme, notre dépendance dans la fonction transport au pétrole est pratiquement incontournable.
Et pendant ce temps-là, le CO2 sature l'atmosphère.
Pendant ce temps-là, effectivement, le CO2 sature l'atmosphère. C'est pour ça que je serais assez d'accord avec mon voisin qui ne s'est pas encore exprimé.
Non, mais il va pas tarder à le faire.
Du pétrole à 100 $, allez, 150 $, c'est un superbe cadeau que nous faisons aux générations futures, mais de manière très inégale socialement.
Alors, aujourd'hui, à la pompe.
Mais en attendant, c'est le chiffre du jour. On va vivre avec ça, et donc notre chiffre du jour, c'est un chiffre qui s'affiche sur nos pompes à essence, à notre grand désarroi, 1,58 comme le prix du litre de sans-plomb 95 qui n'avait jamais été aussi haut depuis 2013. On va essayer de comprendre un petit peu d'où vient cette hausse. Céline Antonin, en gros, des pays producteurs, l'Iran, la Libye, le Venezuela, ont des problèmes et leurs problèmes deviennent les nôtres.
Alors oui, on peut, disons, caricaturer un petit peu ça comme ça. Disons que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a un cartel qui est l'OPEP, qui a maintenant un pouvoir de marché qui est en fait un petit peu réduit, puisqu'en fait, c'est que 40% de la production mondiale. Et en fait, un des grands producteurs aujourd'hui, ce sont les États-Unis, qui sont vraiment montés en puissance, puisqu'en fait, la production américaine de pétrole, elle a doublé depuis 2010. Donc c'est dire quand même, aujourd'hui, c'est le plus grand producteur. Donc il faut compter avec tous les acteurs. Donc il y a ceux que vous avez mentionnés, mais il y a également les États-Unis. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ce sont les Américains qui, avec leurs sanctions, notamment sur l'Iran,
sur l'Iran,
le Venezuela, et ben, finalement, ont une belle marge de manœuvre.
Pour leur propre pétrole.
Oui, tout donc. À fait. Et qui finalement font un petit peu. Alors même si tous les pétroles ne sont pas comparables, tous les marchés ne sont pas intégrés, mais en tout cas, qui sont les maîtres du jeu à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'ils arrivent assez bien à fixer le prix aujourd'hui.
Oui, Benoît Hartmann, est-ce qu'on est dans des considérations géopolitiques, problèmes géopolitiques, sanctions américaines, mais est-ce que tout ceci n'est pas un leurre, puisque de toute manière, à un moment donné, le pétrole se raréfiant devait devenir toujours plus cher?
Oui, on est très simplement dans une question d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'on a une demande de pétrole qui ne fait qu'augmenter. Et tant mieux, parce que quand les Chinois, les Indiens aspirent à une qualité de vie qui ressemble à la nôtre, eh bien, c'est leur droit bien légitime. Simplement, nous savons que notre mode de vie nécessite deux planètes et demie. C'est-à-dire que si tout le monde vit comme un occidental, il faut deux planètes et demie. On pollue deux planètes et demie, on n'a pas les ressources. Donc, vous évoquiez tout à l'heure la question aussi de la motorisation. On ne va pas donner à chacun une voiture, qu'elle soit hydrogène, électrique, ou à chaque foyer, deux ou trois voitures. Vous dites que oui, le prix du pétrole, inexorablement, indépendamment des contextes géopolitiques, va augmenter. Oui, c'est une fatalité. De plus en plus de demandes, de moins en moins de ressources. Par définition, il va augmenter. La question, c'est que, comme on ne sait pas du tout, on n'a pas anticipé, on ne s'est pas adapté à cette hausse inéluctable et donc au renchérissement d'un certain nombre d'actions, on a fait de l'aménagement du territoire n'importe comment, en dépendant énormément de nos transports. Et donc, on n'a pas une question qui est seulement géopolitique.
Transport routier.
Des transports routiers, des transports routiers qui sont... bien plus compétitif que le transport ferroviaire, avec le transport maritime qui perd encore des parts de marché. D'accord. Donc on voit bien que ce n'est pas une question qui est uniquement géopolitique.
Revenons à Trump. C'est la faute de Donald Trump ?
Oui et non. Disons que Donald Trump, c'est l'étincelle supplémentaire. Ce dont il faut être conscient, c'est que le prix du pétrole, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, même si... la hausse du prix et la raréfaction inéluctable, nous l'avons quand même largement repoussée. Ce que vous disiez, le peak oil.
C'est quoi le peak oil ? Qu'est-ce que c'est le peak oil ?
Le peak oil, c'est le moment où le monde devait atteindre son maximum de production pétrolière. Et ensuite, la raréfaction ne devait cesser de diminuer. Comme ça a été dit, il y a seulement 10 ans, il n'y avait pas de pétrole de schiste aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, le marché mondial du pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Les États-Unis en produisent aujourd'hui 12,5, dont 8 n'existaient pas auparavant. C'est du pétrole de schiste. Et donc,
On va trouver des nouvelles ressources à chaque fois. Ce pétrole n'arrivera pas.
On a trouvé de nouvelles techniques pour exploiter des pétroles qu'on ne savait pas exploiter. Donc la fin du pétrole, souvenez-vous. On était tous étudiants à ce moment-là, halte à la croissance. En 1971,
enfin, vous n'étiez pas né.
Voilà.
Mais si, nous sommes des très vieilles choses.
Voilà. Mais,
mais halte à la croissance, bien sûr.
Halte à la croissance nous disait, il n'y aura plus de pétrole à la fin du
Club de Rome, 72.
Le 20e siècle. Aujourd'hui, on a 50 ans de réserve. Peut-être plus.
Je vous interromps, parce qu'il y a quand même des gens qui nous regardent.
Jeunes,
moins jeunes, vieux, qui payent à la pompe, une essence toujours plus chère. Vous m'expliquez, il y en a toujours plus. On s'est trompé, ça ne va jamais s'arrêter. Et pourtant, ça n'arrête pas d'augmenter. Céline Antonin, mais très précisément, l'économiste que vous êtes, y a-t-il une force politique mondiale, M. Trump ou les Russes ou les Saoudiens, capable de ramener de la rationalité et des prix supportables pour les consommateurs que nous sommes ?
Alors, il faudrait que, finalement, ça converge avec leurs intérêts. Parce qu'à un moment donné, on a eu quand même cette politique pendant trois ans, entre 2014 et 2017, où on a eu une volonté de l'Arabie Saoudite, justement, de nuire aux États-Unis en pratiquant des prix très bas, en cassant le prix sur le pétrole. Et donc, on avait un baril autour de 45-50 dollars, donc ce qui était très bas. Et l'idée était que le pétrole de schiste, qui coûte beaucoup plus cher à produire, ne soit pas... que finalement, les États-Unis, ne soient pas rentables et que les États-Unis n'investissent pas justement dans le pétrole de schiste. Alors, ils se sont rendus compte qu'en même temps, pour eux, ça faisait un immense déficit, donc c'était pas forcément une très bonne chose, mais pendant un moment, on a profité de ce pétrole moins cher. Et dans les causes, justement, pourquoi le prix à la pompe est élevé, il y a bien sûr le côté offre-demande, le côté marché mondial du pétrole. Il y a aussi la question du taux de change, puisqu'il faut rappeler qu'on paye notre pétrole en euros.
En euros.
Enfin, on a des euros pour acheter un pétrole en dollars. Donc, si l'euro est fort par rapport au dollar, forcément, la facture est moins conséquente. Donc, il y a ce facteur. Et aujourd'hui, l'euro est plus faible par rapport au dollar que ce qu'il était il y a quelques temps. Donc, ça nous pénalise. Et après, il y a la question de la fiscalité. Et on sait qu'en France, par exemple, sur le pétrole, on a notamment la TVA. Alors, on a deux types de fiscalité. Mais sur la TVA, par exemple, elle est proportionnelle. Donc, plus le prix hors taxe est élevé, plus le prix à la pompe l'est aussi.
N'oubliez pas que 1,58, vous disiez. Sur le 1,58, 60% vous donnez 1 euro grossièrement
à l'État
de taxes.
Alors,
fixes et variables.
On va écouter. Attendez, Benoît Hartmann, vous allez nous faire écouter la porte-parole du gouvernement.
Oui, puisque le pouvoir d'État français a une pierre dans politique. Son jardin, qui vient de subir des mois et des mois de contestation sociale, et ce n'est pas fini en raison au départ du prix de l'essence. Wow. Et si on va quand même pour Benoît Hartmann, est-ce que ce pouvoir français, au nom de raisons sociales, devrait baisser sa part de la hausse du prix du pétrole, devrait baisser sa part de taxes?
Pour parler de la fiscalité du pétrole, il faut regarder un tout petit peu plus loin qu'à la pompe. Vous savez qu'il n'y a pas de fiscalité sur le pétrole pour le kérosène, par exemple. Les avions ne payent pas de fiscalité sur le pétrole. Le transport maritime est exonéré. Les croisiéristes sont exonérés alors qu'ils utilisent le pétrole le pire, le plus polluant, le fioul lourd. Le transport routier est en partie exonéré, et ce qui le rend bien plus compétitif que le fret ferroviaire. Donc quand on regarde la fiscalité sur les carburants, il faut regarder toute la fiscalité sur les carburants. Si demain,
mais
l'État français...
Mais la personne qui fait son plein, elle ne voit que ce qu'elle paye, elle, en taxe.
Justement, c'est l'erreur, à mon avis, l'erreur majeure du politique en France, c'est de ne pas faire une réforme de la fiscalité dans son ensemble, et une réforme qui soit juste. C'est-à-dire que quand on impacte ceux qui n'ont pas le choix, parce qu'on les a fait habiter très loin de l'endroit où ils travaillent, et qu'ils doivent consommer très loin de l'endroit où ils vivent, donc eux qui n'ont pas le choix. Si c'est eux qu'on impacte à la pompe, je comprends la grogne. Et quand on a un euro de delta sur lequel on peut essayer d'amortir les fluctuations, même si on sait que ça pose d'un certain nombre d'inconvénients, pourquoi pas? Mais encore une fois, la vraie réforme, elle devrait être une réforme de l'ensemble de la fiscalité et de dire commençons par taxer les plus polluants et ceux qui... pollue le plus le climat.
Benoît Hartmann, Nadia est là pour vous exaucer, puisqu'on va évoquer la taxation du kérosène.
Ouais, et vous êtes d'accord avec la Commission européenne, parce qu'on vient de l'apprendre. Elle avait l'an dernier élaboré une étude de 66 pages donc, sur la taxation du kérosène, du transport aérien. C'est une étude qui était restée assez mystérieusement dans les cartons, qui a été exhumée par une ONG et par le journal Le Monde qui viennent de la publier. Les conclusions de ce rapport sont sans appel. Il faut une taxe carbone sur le transport aérien parce que, dit le rapport, ce serait le mode de transport le plus polluant par personne et kilomètres parcourus. Et pourtant, effectivement, il n'y a que la moitié des pays européens qui ont fait des taxes sur le transport aérien qui sont en général assez minimes. Alors cette étude, elle préconise précisément une taxe de 33 centimes par litre de carburant, et ça va avoir un effet mécanique. Ça va augmenter le prix des billets d'avion, baisser la demande et donc baisser le nombre de vols. In fine, ça aurait pour effet de réduire de 10% tout de même les émissions de CO2 à l'échelle européenne. Et ils ont fait un petit focus sur la France dans ce rapport. Ils ont calculé que cette baisse du trafic aérien, elle équivaudrait tout de même à retirer 850 000 voitures de nos routes, des routes françaises. Ça rapporterait également des recettes fiscales supplémentaires. Tout ça, c'est ce que dit l'étude, sans impact ni sur l'emploi, ni négatif, ni sur l'emploi, ni sur le PIB. Alors cette taxe, elle est réclamée par beaucoup. Effectivement, il y a aussi des gens qui vont un petit peu plus loin. C'était dans une tribune publiée dans Le Monde, encore une fois. Un militant écologique s'appelle Julien Gauguel, qui lui est pour la suppression des vols en avion non justifiés, éventuellement pour les jeunes, par tirage au sort. Enfin, quelque chose d'assez radical. Philippe Chalmin, sans aller jusque-là, est-ce qu'il faut mettre des freins à la liberté de circuler au nom, justement, de ces questions écologiques?
Non, mais au minimum, peut-être pas mettre des freins, mais égaliser les contraintes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le
transport... Vous dites qu'il faut taxer le kérosène, vous dites...
Ah bah, oui, bien sûr,
il faudrait...
le kérosène. Alors sur le transport maritime, il y a quand même de nouvelles normes qui sont en train d'être mises en place, mais il n'y a pas de taxation internationale. Je vous rappelle que nous sommes au degré zéro de la gouvernance internationale.
Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pardon, pourquoi est-ce que la France ne taxe pas...
Attendez, on ne peut pas le faire tout seul. Regardez simplement l'Allemagne... taxe le transport routier. La France, souvenez-vous, depuis non pas les gilets jaunes,
les bonnets rouges,
la France a abandonné cette
écotaxe.
Donc déjà, nous avons reculé sur l'écotaxe. Il me paraît très légitime, peut-être, de se dire, ben, on va essayer de stabiliser la pression fiscale sur le carburant aux alentours d'un euro, 90 centimes ou un euro, et puis ensuite on laisse la part variable en fonction du marché. Et c'est vrai que ce serait peut-être un tout petit peu plus équitable. Ceci étant, soyons honnêtes, sur la très longue période, nous risquons, avec les dernières Trumperies qui concernent l'Iran, avec les tensions qu'on a eues ce week-end, où des pétroliers saoudiens auraient été sabotés, etc., nous risquons d'avoir quand même de nouvelles tensions. Je ne serais pas étonné, dans un cas qui n'est pas forcément le pire, que nous soyons dans